Donc je vais laisser la parole en premier à Yann.
Alors bonjour, du coup comme il a été dit, moi je suis partie d'un collectif, on a fondé un collectif avec plusieurs personnes à partir de 2011-2012, qui s'appelle Les Armandais. C'est un collectif qui s'est constitué à partir du moment où des proches à nous avaient été blessés par des grenades, et notamment des grenades de désencerclement, sur des luttes antinucléaires, notamment à Montabo, sur le camp du Chefren, qui était un camp antinucléaire dans le Cotentin-Maine. À partir de ce jour-là, on a pris conscience de l'existence de ces grenades réellement, et on a pris conscience de leur dangerosité, et on a commencé à vouloir sensibiliser sur ces armes-là. Donc on a commencé par notre travail en faisant une brochure, c'est-à-dire qu'on n'était pas constitué en collectif à cette époque-là, et on a rédigé donc une brochure sur les armements du maintien de l'ordre qui était destinée en fait aux militants, aux personnes qui participaient à des manifestations. On n'était pas alors dans une perspective d'assister des blessés de toutes sortes, on va dire ça comme ça, et ça s'est un petit peu précisé au cours des années, puisque très rapidement, après 2012, notamment en 2014, il y a eu le moment Notre-Dame-des-Landes, où fin 2012, il y a eu les expulsions de Notre-Dame-des-Landes, qui ont fait prendre conscience à une partie beaucoup plus large de la population de l'existence d'un certain nombre de grenades qui étaient utilisées contre la population. Et notamment, il y a eu beaucoup de blessés, et il y a eu des rapports de médecins à l'époque, adressés au préfet directement d'ailleurs, qui faisaient état de ces blessures-là. Donc à partir de 2012, on commence à rencontrer des équipes médiques, c'est-à-dire des personnes qui interviennent sur le terrain pour soigner les personnes blessées en manifestation notamment. Et on s'est dit qu'à ce moment-là, il fallait constituer quelque chose de plus large et qu'il fallait commencer à travailler sérieusement et à s'organiser contre ces armes-là. Donc le deuxième moment fondateur, c'était notamment Sivens, justement. Notamment après la mort de Rémi Fraisse, il y a eu le cas d'Elsa, évidemment, il y a eu le cas de Rémi Fraisse. Ces deux cas qui sont pour nous emblématiques de la violence policière, emblématiques de la dangerosité, qui révèle la dangerosité des grenades. Et surtout, à partir du 8 novembre 2014, on rejoint un collectif plus large qui s'appelle l'Assemblée des blessés, dont on vous parlera juste après, qui est un collectif de personnes mutilées par la police, blessées et mutilées. Un certain nombre, à ce moment-là, je pense qu'on est dans l'Assemblée des blessés, il y a une dizaine de personnes mutilées par la police, notamment des personnes éborgnées par des tirs de police. Et voilà, donc ça c'est pour l'historique de l'Assemblée des blessés, c'est pour l'historique de Désarmandés. À partir de 2014, il y a aussi un processus qui s'engage de veille systématique des violences policières, notamment des violences par armes de police. Et ça nous amène à la loi travail, ça nous amène à des épisodes plus récents où on travaille à recenser les blessés et à accompagner les blessés. Du coup, notre intervention principale en tant que Désarmandés, mais aussi en tant que membre de l'Assemblée des blessés, c'est d'accompagner les personnes qui sont blessées dans toutes les suites psychologiques, dans les suites juridiques. On essaye d'apporter toute notre expertise. Après, je n'oserais pas trop parler d'expertise, parce que les experts nous posent en général plus problème que chose en justice, puisqu'ils sont plutôt contre nous. Mais en tout cas, une connaissance du terrain, une connaissance de ces arts, et aussi tout simplement notre solidarité. Et c'est ça notre intervention principale, c'est d'apporter notre solidarité, d'être là pour les personnes, pour sortir les personnes blessées de l'isolement. Parce qu'il va évidemment se retrouver du jour au lendemain face à la justice, et notamment face à des blessures de ce type-là, qui sont des blessures de guerre, par des armes de guerre. C'est extrêmement, extrêmement douloureux comme processus, et du coup on essaie d'être juste présent avec les moyens qu'on a. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je voulais intervenir aussi sur les armes elles-mêmes, parce que je pense que c'est très important dans ce travail de sensibilisation et d'accompagnement de décrire ces armes-là. Aujourd'hui, on en incrimine surtout trois. Évidemment, dans notre pointeur, il y a toutes les autres. Il y a aussi le gaz lacrymogène, parce qu'il produit aussi ces effets qui sont extrêmement néfastes. Mais aujourd'hui, on est axé sur trois armes. Lesquelles? C'est notamment la Glie F4. La Glie F4, je la cite avant les autres parce qu'elle fait partie du maintien de l'ordre dès avant 2001, donc dès avant 2001-2004, qui est l'instauration des armes sublétales. La Glie F4 existait déjà avant. Elle faisait partie de la panoplie du maintien de l'ordre, au même titre que la grenade offensive qu'a tué Rémi Fraisse. C'est une grenade avec de la tonite. Tonite, c'est l'équivalent de la TNT. C'est un explosif dangereux. Qui produit une détonation, c'est 25 grammes de tonite, produit une détonation de 160 décibels, qui est 40 décibels au-dessus du seuil de douleur supportable par l'oreille humaine. Et notamment, l'explosion elle-même produit des séquelles graves, c'est pour nous une arme de guerre, elle a arraché des mains, notamment récemment, et j'en reparlerai juste après, et mutilé gravement de nombreuses personnes, dans la mesure où elle envoie des éclats métalliques dans les membres des personnes, dans les jambes notamment, et dans le corps entier des personnes, des extraits métalliques qui parfois ne peuvent pas être extraits du corps et peuvent également s'infecter, rompre des ligaments, mais on en parlera plus en détail, je pense, avec les personnes qui ont accompagné médicalement les personnes blessées. Donc il y a la GLIEF-4, il y a le lanceur de balles de défense qui arrive à partir de 2007, qui est expérimental en 2007 et qui est, pendant sa phase expérimentale, a déjà éborgné Pierre Douillard, qui est un des membres fondateurs de l'Assemblée des blessés, qui a perdu l'usage d'un œil à cause d'un tir de lanceur de balles de défense à Nantes le 27 novembre 2007. Ce lanceur de balles de défense que vous voyez ici, c'est une arme extrêmement dangereuse qui prend le relais du flashball, qui était une arme de 44 mm qui pouvait tirer qu'à 20 mètres. Cette arme-là, à partir de 2007, elle est utilisée, elle est dotée, les forces de l'ordre en sont dotées parce qu'elles se plaignaient du manque d'effectivité du flashball. Très clairement, après les émeutes de Villiers-le-Bel, après les émeutes de 2005, les forces de l'ordre se sont plaintes du manque d'efficacité de cette arme et elle a été remplacée par l'ensemble de balles de défense. C'est une arme qui tire à 50 mètres, c'est une arme qui est extrêmement précise, qui a une visée optique et qui a un canon rayé, c'est-à-dire que la balle tourne et tourne avant d'être propulsée, ce qui lui donne une puissance bien plus élevée. C'est une arme qui tire, qui a une puissance de 220 joules, ce qui est énormissime, et qui a mutilé, depuis sa mise en place, elle a mutilé plusieurs dizaines de personnes depuis 2007. La dernière arme dont on va parler, c'est l'arme qui nous concerne aujourd'hui, c'est la grenade de désencerclement qui arrive en 2004 dans le panoplie du maintien de l'ordre. C'est une grenade qui est constituée de plots en caoutchouc, de 18 plots en caoutchouc de 9 grammes, qui sont propulsés sur un diamètre, sur un rayon de 30 mètres, avec une puissance de 80 joules. 80 joules, ça veut dire que les plots en caoutchouc sont propulsés à une vitesse de 131 mètres/s, à savoir 471 km/h. Ça veut dire qu'à moins de 30 mètres, elles sont, et d'ailleurs dans les rapports, et peut-être qu'on en parlera après, mais dans les rapports officiels, il est très clairement dit que les experts balistiques n'ont pas évalué la dangerosité au niveau du visage. Ils ont évalué la dangerosité de cette arme au niveau du reste du corps, mais pas du visage. Parce que tout simplement au niveau du visage, elle provoque des fractures systématiquement, et notamment elle peut occasionner la perte d'un œil. La grenade de désencerclement, elle produit aussi une détonation de 140 décibels. Elle est dans la panoplie du maintien de l'ordre, considérée comme une arme à effet psychologique, c'est-à-dire qu'elle est censée faire peur. Elle est censée faire peur. 140 décibels, c'est 20 décibels au-dessus du seuil de douleur. Donc évidemment, ça peut occasionner aussi, au-delà des acouphènes, ça peut occasionner des pertes, des surdités, temporaires ou définitives. Elle est donc extrêmement dangereuse. Et elle est surtout systématiquement mal utilisée. Et là, il ne s'agit pas de bavure, il s'agit d'un usage systématique, depuis 2016 en tout cas, un usage en cloche. Au lieu d'être roulée au sol, elle est envoyée au-dessus de l'épaule, c'est-à-dire qu'elle est, tirée, elle est lancée par les forces de l'ordre au-dessus de l'épaule au lieu d'être roulée au sol, et surtout elle est utilisée dans des situations offensives. Elle est censée être utilisée pour se désencercler. Elle est censée être une arme de légitime défense, c'est-à-dire quand les policiers sont dans l'incapacité de se dégager d'une situation, elle est censée les aider à disperser la foule dans des situations d'urgence extrême pour s'enfuir. Elle n'est pas censée être utilisée comme une arme offensive, ce qui est évidemment complètement contraire à son utilisation depuis 2016, mais aussi depuis 2014. Le cas d'Elsa est très très éloquent pour ça, puisqu'elle a été jetée dans une caravane, évidemment en cloche, puisque le roulé au sol n'aurait pas fonctionné. Voilà. En tout cas, ces armes-là, c'est les armes qu'aujourd'hui on dénonce. Évidemment, il y a des nouvelles armes qui apparaissent aujourd'hui et qui apparaissent encore, mais on ne va pas en parler. Notamment le Pen Arms, qui est une version élaborée du lanceur de balles de défense, qui permet de tirer exactement les mêmes cartouches de 40 mm, mais à raison de 6 coups en 4 secondes.
Comment ça s'appelle ça ? Parce qu'on c'est parfois utilisé déjà.
C'est utilisé, oui, c'est très clairement utilisé. C'est utilisé notamment depuis le mouvement des Gilets jaunes, c'est utilisé de manière systématique, mais elle était déjà apparue en 2016, et c'est le Riot Pen Arms qui est produit par le fabricant américain Combined Systems. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire, et moi je conclurai assez rapidement là-dessus. Ce qu'on peut dire, c'est que on a constaté dans notre recensement que sur les 20 dernières années, on était autour de 53 blessés graves, de personnes mutilées par les forces de l'ordre, depuis donc le début de notre décompte qui commence en 1999, mais plus réellement à partir de 2007. C'est-à-dire qu'on a déjà des blessés avant 2007. Mais en tout cas, on était à 53 personnes en 20 ans. Depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, c'est-à-dire depuis notre décompte commence le 17 novembre 2018, ce nombre, ce chiffre, il a explosé, puisqu'en l'espace d'un mois, on a eu 12 personnes éborgnées par des tirs de lanceurs de balles de défense, et on a eu 4 personnes qui ont la main arrachée par des grenades de IF-4, 4 personnes, notamment à Paris, Tours et Bordeaux. Et on a un nombre considérable de personnes qui sont gravement blessées par la grenade de désencerclement, qui, à notre connaissance aujourd'hui, pendant le mouvement des Gilets jaunes, n'a pas mutilé, au sens, n'a pas occasionné la perte d'un membre, d'un œil ou d'une main, mais en tout cas, a blessé gravement des personnes. On a des photographies, on a des témoignages très éloquents, et notamment, on a beaucoup de vidéos. Elle a été utilisée de manière systématique sur une arme offensive. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que je pense qu'il fallait dire.
Pardon, aux personnes éborgnées, c'est des gens qui ont perdu définitivement l'oreille.
C'est ça. Soit par une perte complète du globe oculaire, c'est-à-dire une rupture du globe oculaire, soit par des fractures qui ont occasionné une infirmité, enfin, qui, pas la rupture du globe oculaire, mais en tout cas la perte du cristallin et la perte de la vue, et donc une cécité qui, comme Pierre Douillard, qui n'a pas perdu son globe oculaire, mais qui a perdu l'usage de la vue par les effets de l'impact.
Et au total, c'est plus d'une trentaine de blessés, non ?
On est, aujourd'hui, on comptabilise, en tout cas, le recensement, il est à 60.
Par des balles de défense.
Par des balles de défense, on a 12 personnes éborgnées.
Mais il y en avait qui ont eu des traumatismes crâniens aussi.
Oui, on est entre 30 et 40 personnes. Ouais. 30 et 40 personnes. On compte là, dans ces personnes-là, des personnes qui ont des fractures, des fractures ouvertes, et aussi des hématomes intracrâniens. Et voilà, qui implique une infirmité qu'on verra aussi apparaître au fur et à mesure du temps. Parce que c'est ce qu'on essaye de faire, de dire aussi dans notre travail, c'est que les blessés ne font état de leur situation parfois que bien plus tard. Et les séquelles peuvent apparaître aussi plus tard. En tout cas, on n'est pas tout de suite au courant des séquelles à long terme que peuvent avoir ces personnes. Et donc c'est un travail sur le long terme qu'on a commencé depuis 2014 auprès des blessés, et notamment les personnes qui nous ont rejoints dans l'Assemblée des blessés sont des personnes avec lesquelles on continue de s'organiser sur des années en fait. Ça ne s'arrête pas à la blessure, ça ne s'arrête pas à la consolidation physique de la blessure.
Toutes les personnes dont vous nous parlez ont déposé plainte systématiquement?
Quasiment toutes, au pénal ou au tribunal administratif. C'est variable, en tout cas, quasiment toutes ont porté plainte au pénal.
Est-ce que vous faites un état des situations dans lesquelles ça s'est passé? Parce qu'a priori, beaucoup de personnes n'étaient ni menaçantes, ni à proximité des procureurs, parfois étaient même des simples observateurs. Est-ce que vous avez fait une typologie un peu des circonstances?
Bien sûr. Alors déjà, l'Assemblée des blessés est constituée non seulement de personnes blessées en manifestation, mais aussi des personnes blessées dans les quartiers populaires, et aussi de personnes blessées en marge de matchs de foot. Donc on a vraiment des situations très diverses. On a une grande partie qui sont mineures au moment des faits, et on a une grande partie des personnes qui sont en marge des moments de tension. Je parle de moments de tension, aussi bien en manifestation qu'en intervention au quartier populaire, c'est souvent des personnes qui sont en marge. On a des personnes qui sont à l'arrêt de bus, qui ne font que passer. Ça ne justifie en rien, évidemment, les blessures à l'égard des autres personnes qui seraient plus actives dans les manifestations, notamment. Mais en tout cas, d'un constat, un pur constat, la plupart des personnes sont blessées en marge, effectivement. Oui, et notamment sur le mouvement des Gilets jaunes.
Enfin, la situation, comme elle s'améliore, c'est avec l'usage disproportionné ou mal pas adapté du tout à la situation.
Oui, notamment sur le mouvement des Gilets jaunes, c'est extrêmement éloquent. Mais déjà avant, au moment de la loi travail, tir au niveau de la tête. Les policiers sont censés mettre le genou à terre pour utiliser le lanceur de balles de défense. Ils sont censés rouler la grenade de désencerclement au sol. Ils font tout l'inverse, c'est-à-dire qu'ils tirent en courant, ils tirent en marchant, ils tirent sans poser le genou au sol, ils tirent à hauteur de tête alors que c'est interdit. Et la grenade de désencerclement, ils la jettent, comme je dis tout à l'heure, au-dessus de l'épaule, absolument pas roulée au sol, absolument pas dans des situations où ils sont bloqués ou dans l'obligation de se dégager. Du coup, oui, on peut dire que les deux tiers à trois quarts des cas sont des mauvais usages de l'arme.